Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Donc, en effet, c'était vraiment une rapide petite pause. Donc, oui, en fait, on va reparler en fait de la petite chronique. En fait, ça va être une discussion ouverte en fait sur le reportage, un reportage nouveau que justement de nos professeurs là, qu'on apprécie particulièrement, Jean-François Daou.
Qu'on salue d'ailleurs,
qu'on a d'ailleurs posé la question si on devait mettre l'accent sur certaines choses, on va en reparler justement. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu un petit reportage nouveau. Jean-François Daou a justement glissé quelques mots sur trois élections hyper importantes qui vont se passer en 2024. Les élections américaines, les élections taïwanaises et les élections indiennes, justement. Donc, trois élections là, qui vont vraiment faire... Je pense qu'ils vont vraiment nous donner le pouls un petit peu sur où est-ce que la démocratie s'en va. Oui, c'est ça.
C'est ça, M. Daou là, affirmait vraiment que ça va être un test démocratique là, dans les deux cas, dans les deux options, soit que Biden ou Trump gagnent. Je vais laisser justement Jay en parler plus amplement. Là.
Oui, donc c'est ça. Là, ben, je vais retourner un petit peu en arrière. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu l'abandon de George Santos aux primaires républicaines en Iowa parce qu'il y a eu une grande victoire justement de Donald Trump. Et il s'est vraiment affirmé comme étant le seul. On va y revenir là, mais il a vraiment démontré que George Santos n'était pas réellement dans la course et je crois que vous en avez parlé hier justement un petit peu.
Oui, exactement. C'est un sujet là, incontournable nécessairement, surtout lorsqu'on parle de politique. Là, le fait justement que M. Santos se retire de la course, ça a laissé le champ libre là, à Trump qui a justement remporté le cœur de l'Iowa.
Oui, c'est justement le champ libre s'est encore agrandi hier avec la défaite frappante de Nikki Haley au New Hampshire et vraiment là justement monsieur Daou c'est ce qui mettait de l'avant. Ça va être vraiment un retour du duel en fait Joe Biden et Donald Trump et qui allait avoir comme on disait tout à l'heure un test de démocratie en fait dans les deux cas du résultat des élections. Donc c'est un test si par exemple Biden y gagne. Parce que les républicains, en fait, ils vont devoir accepter la défaite. Donc, le réel challenge, excusez-moi l'anglicisme, ça va être les républicains, en fait, ils vont devoir accepter cette défaite-là et calmer le jeu, en fait, de leur population. Donc, éviter ce qui s'est passé là, aux dernières élections et qu'il y a eu une attaque, en fait...
au Capitole.
Une attaque au Capitole, merci. Donc, ça va être le challenge si jamais Joe Biden y gagne. Et sinon, ça va être, si par exemple Donald Trump gagne, mais ça va être un test démocratique parce qu'il va notamment avoir un sentiment de vengeance, en fait, contre les institutions mises en place, là, principalement ceux qui sont judiciaires. Oui?
C'est ça, on connaît justement tous les procès auxquels M. Trump fait face en ce moment. Aussi, certains recours qui ont été déposés contre lui, fait que ça va être assez intéressant à voir.
Oui, c'est ça. Donc, on va passer justement là. Ça va être vraiment intéressant de voir là, qu'est-ce qui va se passer. Sinon, il y avait les élections taïwanaises. J'en avais parlé rapidement un petit peu là, rapidement dans ma chronique. C'était exactement là-dessus que j'avais basé ma chronique sur les élections taïwanaises. Donc, c'était la victoire de Xi Jinping. Je m'excuse encore de la prononciation du nom. Là, c'est pas ma langue première, ni ma deuxième.
Est-ce que ça en fait partie?
Non, absolument pas. Ça a été mes premiers mots, premier mot que j'ai appris dans cette langue. Oui, donc élection taïwanaise qui se sont super bien passées d'ailleurs, que ça a été vraiment justement félicité. Là, c'est drôlement dit, mais il était A1, probablement des élections les plus démocratiques dans les trois qu'on va parler. Je voulais parler justement, en fait, une petite parenthèse sur l'instrumentalisation, en fait, des semi-conducteurs. Là, j'ai lu ça dernièrement. La Chine accuse, en fait, les États-Unis et leurs alliés de instrumentaliser, en fait, la chaîne de production mondiale. Excusez-moi, instrumentaliser les semi-conducteurs et déstabilise la chaîne de production mondiale. En fait, ce qui veut dire par ça, c'est que, notamment, Taïwan produit... la majorité des semi-conducteurs les plus avancés du monde. Donc, tout ce qui va être les semi-conducteurs, c'est nécessaire dans tout ce qui est électronique et les plus avancés vont être utilisés notamment dans la IA ou dans l'informatique quantique ou dans les des appareils militaires. Donc, les États-Unis, notamment en mettant des sanctions contre la Chine, et par exemple le Japon aussi a fait la même chose, donc en perturbant la chaîne de production mondiale, ils empêchent la Chine notamment d'avoir accès à plusieurs semi-conducteurs, donc notamment les plus technologiques. Donc j'avais lu ça dernièrement, j'avais trouvé ça super intéressant. Sinon, on parle des suivi des élections en Inde. C'est la plus grande démocratie mondiale. C'est vraiment triste parce qu'il y a un recul de démocratie en Inde dans les dernières années, notamment en ce qui concerne le droit de la liberté de presse. Donc,
il y a d'ailleurs plusieurs organisations internationales là, qui ont justement dénoncé l'Inde là, de bafouer là, certains droits de l'homme là, assez importants.
Oui, donc les élections de l'Inde vont se dérouler en fait avril et mai. En fait, là, pour vous donner une petite idée, en fait, selon moi, ces élections en Inde-là vont être super importantes parce que l'Inde fait face à plusieurs enjeux. Donc, bien que ça soit l'une des plus grandes, je pense, si je me souviens bien, c'est la quatrième plus grande puissance économique au monde. Mais tout ça dans une économie qui est peu diversifiée, là, donc c'est vraiment axé sur les services. Et
je crois qu'il y a une question textile aussi, si je me souviens bien, là, en Inde, là, si je ne me trompe pas.
Vite comme ça, je ne suis pas capable de me souvenir s'il y avait une question textile, mais possiblement.
Je pense que c'est des grands producteurs de textiles. Peut-être que je me trompe.
Très possible, mais vite comme ça, je sais pas. Je sais qu'ils sont leaders, notamment dans le pharmaceutique, là, dans tout ce qui concerne les médicaments génériques. Là, donc, tous les médicaments qui n'ont plus de brevet, mais l'Inde se spécialise justement dans la production de ces médicaments-là. En fait, c'est le plus grand producteur mondial, si je me souviens bien, dans ce domaine-là. Mais il mange une grande diversité économique. Là, la majorité de sa population... Et la plus pauvre est engagée en fait dans tout le secteur agricole, donc il y a un besoin en fait de développer son secteur manufacturier. Mais c'est plus difficile qu'on le pense, là, juste nommer ça comme ça. Donc c'est ça, ça va être de grandes élections qu'on va devoir suivre de très près, voir comment l'une des plus grandes puissances mondiales, notamment économique et militaire, va diriger en fait. Et on va voir, là, parce que si on se souvient bien, là, des élections, c'est vraiment la comment on pourrait dire ça? On peut vraiment prendre le pouls justement sur la démocratie et comment que le peuple décide justement de décider de son futur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à voir ces trois grandes élections.
Puis c'est ça, il disait que je crois plus que la 50% là, de la population en âge de voter allait se retrouver en élection là, durant justement l'année, là, ce qui est quand même très, très... c'est très important, là, ça va être très important politique cette année sur la scène internationale. Sinon, on pourrait s'étendre également plus longuement là, sur le fait qu'un retour potentiel de Trump au pouvoir pourrait représenter des enjeux importants là, pour le Canada. Là, on sait que M. Trudeau n'a pas osé... prendre vraiment position là-dessus, mais on connaît très bien les relations entre M. Trump et M. Trudeau qui étaient, mettons, très froides, pour rester poli. M. Trump n'a jamais caché vraiment, comme je pourrais dire, un certain mépris là, envers M. Trudeau, fait que ça va être assez intéressant là, de voir comment tout ça va changer les relations canado-américaines.
Ouais, clairement, on se souvient là, la renégociation de l'ALENA qui est devenue la SAN. Ouais, en fait, je vais pas trop m'avancer. En fait, la renégociation de l'ALENA qui a été détrimentale en fait pour nous justement là, les tactiques protectionnistes de Donald Trump clairement affectent le Canada et
notamment pour les producteurs laitiers.
Et désolé de dire à tout le monde, mais on peut pas échanger avec les États-Unis, c'est notre premier partenaire et ça va rester comme ça pendant très longtemps.
Ah oui, définitivement, on partage une des plus grandes frontières mondiales. Ben, je pense que c'est la plus grande frontière mondiale. Puis on a nécessairement besoin d'eux là, pour protéger notre grand territoire peu peuplé et avec une petite armée, surtout comparée à nos voisins américains.
On a besoin d'eux pour protéger notre grand nord, notamment.
Définitivement.
Donc, sur ce, en fait, je vous envoie en pause et on se retrouve vers 10h pour une... Là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Cette fois-ci, c'est pour vrai l'évolution du scandale de Hockey Canada. Donc, je vous envoie en pause et on se revoit après celle-ci.